Chapitre 17. Trahison. Pourquoi votre chef a-t-il parlé de Lansin? Le banni refusait de répondre. Les mains attachées dans le dos, à genoux sur le bord du chemin, il regardait, incrédule, les cadavres autour de lui et le sang qui s'épanchait sur le sable du chemin. Je dois le faire parler de sa propre volonté. Il est fier. Je peux me servir de cela. « Je n'ai pas eu besoin de mes pouvoirs pour vous anéantir, » reprit Fingin. « Vous vous êtes ridiculisé, et je vous avais pourtant prévenu. » Le banni soupira. Fingin visait au bon endroit, mais cela ne suffisait pas. « Il faut que j'aille plus loin. » « Lansin. Vous parlez de Lansin, et vous ne pouvez même pas battre un seul druide. » « J'espère que Mel et Caitlin comprennent ce que je fais. » « On ne devrait pas employer des mots à la légère, quand on n'est pas capable de les assumer, » continua Fingin en regardant l'homme droit dans les yeux.
« Vous voulez me faire parler ?»
souffla le banni. « Il est moins stupide que je ne le croyais. »« Pourquoi ? Tu as quelqu'un à protéger ? Tu as peur que je découvre ton grand secret ?» demanda Fingin d'un ton ironique.
« Cela vous fait rire. Et pourtant, vous aimeriez bien savoir. »
« Ce que j'aimerais savoir, » le coupa Fingin, « c'est comment des hommes comme vous ont pu se faire avoir à ce point. Qui a bien pu vous faire croire que vous participiez à Lansin ?» Le banni fit un sourire en coin.
« Arrêtez de me prendre pour un imbécile, druide. Vous croyez pouvoir m'humilier au point de me faire parler. Vous pensez peut-être que les bannis sont forcément idiots. »
Il a raison. Je l'ai sous-estimé. Je pourrais utiliser la force ou la menace pour le faire parler, mais j'espère que ce sera mon dernier recours. Il faut absolument que je sache. Je suis sûre qu'une information essentielle se cache derrière tout cela. « Croyez-vous que Lansin a vraiment commencé ?» demanda Fingin, posément.
« Je ne le crois pas, je le sais. »
« Alors pourquoi refusez-vous d'en parler ? S'il a commencé, il n'est pas secret. Il doit éclater au grand jour, n'est-ce pas ?»
« Vous le saurez bien assez tôt. La reconquête est en marche. »
« Il ne ment pas. Mais je ne comprends pas ce qu'un banni vient faire là-dedans. » « Lansin. » Ce mot venait, à l'origine, des Érylim. Il désignait le combat que l'Ahriman menait contre le Saïman. À présent, Lansin englobait plus généralement la guerre contre les druides. Saïmina avait pris le contrôle de l'île. Les guerriers de Lansin voulaient le lui reprendre. Mais Lansin n'avait jamais eu lieu. Pourtant, sa menace avait parcouru les siècles, et aujourd'hui, il survivait à la disparition des Érylim. Maol Morda, il n'y a que lui qui puisse être derrière tout cela. Ainsi, le renégat va sortir de l'ombre. Bien sûr, tout arrive en même temps. Elle est en train d'échouer votre reconquête. Je suis toujours vivant, et pourtant je suis un druide.
« Ce ne sont pas les druides qui partiront les premiers. »«
Aléa. Ils cherchent Aléa. »« Vous ne pourrez jamais attraper le Samil Danak. » Voilà, il est surpris. Il voit que je peux lire entre les lignes. Il voit que j'ai deviné. Ou peut-être croit-il que je savais déjà. Maintenant, je dois l'intriguer, lui faire croire que j'en sais encore plus. L'impressionner.
« Elle ne doit pas être si dure à attraper. » « Alroeg y est bien parvenu. »«
Alroeg ? Aléa a été capturée par l'Harcourt ? Dans ce cas, elle doit être Aria, à moins qu'elle n'y soit déjà plus. »« Si elle est Aria, c'est qu'elle le veut bien. Alroeg ne pourra la garder longtemps. »«
Suffisamment, semble-t-il, pour que nous n'ayons plus qu'à l'y cueillir. » »«
Voilà, il a confirmé. Elle est Aria. Je sais où je dois me rendre à présent. » Mais je ne sais toujours pas comment les bannis ont pu être embrigadés dans Lansin. Est-ce si important que cela? Ce qui compte, c'est que Maol Morda est visiblement passé à l'attaque. Tout va si vite. Aléa est-elle seulement au courant? Il faut que je la prévienne. Et Erwan, est-il auprès d'elle, Aria? Fingin fit volte-face. Il vit dans le regard de Mel et Caitlin qu'ils avaient compris.
Que fait-on d'eux? Nous devrions peut-être les emmener pour les livrer à la prochaine patrouille que l'on croisera,
suggéra Mel. Non, répondit Fingin en remontant à l'avant de la roulotte. Il lança un dernier regard au banni. Deux étaient toujours dans le coma, et le troisième avait les mains liées dans le dos. « Non, » continua-t-il. « Laissons-les ici. Ils ont déjà payé beaucoup. Que pourrait-on faire de plus à un banni? Le mieux que nous puissions faire, c'est de les pardonner. » Mel aida sa sœur à monter sur la roulotte et vint s'asseoir auprès d'elle. Sans attendre un instant de plus, la cheminante fit partir les chevaux au galop. Le banni, épuisé, regarda la roulotte s'éloigner sur le chemin de sable. Il regarda les corps sans vie autour de lui. Un autre homme aurait sans doute versé une larme. Un autre homme encore aurait crié de rage et d'humiliation. Mais lui ne sentait rien. On l'avait depuis longtemps habitué à souffrir. Ou plutôt, on l'avait obligé, depuis longtemps, à ne plus souffrir de rien. Aeditus suivit le valet du comte à travers les couloirs du palais de Rhea. Il avait attendu toute la matinée qu'Alroeg se décide à le convoquer, et il était soulagé de voir qu'il le demandait enfin. La rumeur d'une possible déclaration de guerre de la part de la Galatie n'avait jamais été aussi forte, et il était bien sûr temps de faire quelque chose. De plus, ils étaient toujours sans nouvelles de l'évêque natalien et de sa mission en Terre Brune. Aeditus se demandait s'il avait bien fait de laisser partir ainsi cet évêque peu ordinaire. Il savait que Natalien cachait quelque chose, et plutôt que de l'empêcher d'agir, il avait choisi de le laisser faire pour tenter de comprendre les motifs réels du personnage. Mais quand le capitaine qui était censé escorter Natalien jusqu'à Méricourt était revenu sans l'évêque, en expliquant que celui-ci avait décidé de continuer seul, Aeditus s'était dit qu'il avait peut-être fait une grave erreur. Soit Natalien était fou, soit il préparait quelque chose. Il y avait plus de bruit qu'à l'accoutumée dans les couloirs de Rhea. On aurait dit que la guerre avait déjà commencé. Aeditus soupira. Comme le palais épiscopal du Mont-Tombe lui manquait. Le mont était un univers à part, isolé, silencieux, studieux, épargné par les folies du Nouveau Monde. Harmonique dans les sons étouffés de ses venelles étroites et dans les couleurs douces de ses murs de pierre, les soutanes et les toges d'étudiants. C'était sa ville, celle qu'il avait rénovée pour que sa renommée brille de nouveau jusqu'aux quatre coins de la Gaëlia. Le Mont-Tombe avait cessé d'être le centre culturel d'une société vieillissante et grâce au christianisme, elle était redevenue le pôle intellectuel de l'île. C'était la plus grande fierté de l'évêque. Ce dont il voulait que les gens se souviennent quand il aurait quitté ce monde. Mon tombe. Mais si les conflits continuaient d'empirer ainsi, il se passerait sans doute beaucoup de temps avant qu'il ne retrouve le calme apaisant de son petit office, dans la demeure épiscopale de la Merveille, comme on surnommait l'endroit. Et pourtant, il fallait bien que le monde avance. Plus de la moitié de la Gaëlia était encore sous le contrôle des druides et de leur religion archaïque. L'ombre de la croix du Christ devait s'agrandir pour gagner toute l'île. C'était la promesse qu'il s'était faite, la mission qu'on lui avait confiée quand il avait quitté la Grande Brythia. Et il avait une revanche à prendre sur les Galatiens, qui avaient fait de lui un esclave quand il n'avait que 16 ans. Le valet s'arrêta devant la grande porte de chêne qui fermait le bureau du comte. Il fit signe à l'évêque de patienter un instant et l'annonça. Un autre valet ouvrit la porte de l'autre côté et invita Aeditus à entrer. Le comte était seul à son bureau, appuyé sur le dossier de sa chaise, les coudes posés sur les accoudoirs recouverts de velours vert et les mains croisées devant sa bouche, avec un air pensif et inquiet. Aeditus, vêtu de sa tenue d'évêque, avança jusqu'au bureau.
« Vous m'avez fait demander ?»«
Asseyez-vous, monseigneur, » répondit le comte d'une voix grave. Feren Alroeg était un homme un peu gras. Presque chauve, il avait le visage rond, de petits yeux sombres, une bouche sévère. Il avait la réputation d'être juste et droit, mais aussi belliqueux et agressif. Quand il s'était converti au christianisme, il avait offert à jamais sa protection à l'évêque Aeditus et en avait fait son principal conseiller. La foi du comte était sincère, et il se fiait à l'évêque pour toute chose religieuse et politique, mais il n'avait rien perdu de son autorité sur le peuple. Au contraire, celle-ci s'était renforcée en s'appuyant sur des bases plus solides. Le christianisme
était devenu pour lui une telle évidence qu'il avait exigé la conversion de l'Harcourt tout entière et qu'il ne tolérait aucun doute, aucune réserve. Il comptait sur Aeditus pour le guider dans sa foi, et Aeditus comptait sur lui pour construire les fondements d'une église indestructible. Les deux hommes entretenaient une grande estime mutuelle.
« Que savez-vous du Samil Danak ?»
Aeditus parut surpris. Il s'était préparé à une conversation au sujet de la guerre avec la Galatie et n'avait pas imaginé un instant que le comte puisse le convoquer pour toute autre chose.
« Du Samil Danak en général ?» Ou de la jeune fille qui prétend l'être aujourd'hui?
Les deux.
L'évêque inspira et prit un instant pour réfléchir. Il essayait de rassembler tout ce qu'il avait pu lire sur le sujet, mais aussi ce qu'il croyait.
Le Samil Danak est une sorte de druide tout-puissant, selon les croyances anciennes de la Gaelia. Un homme qui serait capable de contrôler le Saïman de manière définitive. Les druides ne parviennent, dit-on, à maîtriser celui-ci que de manière éphémère, instantanée. Les manites, par exemple, auraient été construits par des Samil Danak.
J'ai déjà vu un manite, Aeditus. Ils existent vraiment. Comment expliquez-vous cela?
Je crois tout simplement que ce sont des interprétations primitives du pouvoir de Dieu.
Contrairement aux druides, les Samil Danak vivent seuls, loin de Saïmina, et ne suivent aucun enseignement. Ils sont beaucoup moins pervertis que les druides. Peut-être ont-ils le cœur juste et sincère. Après tout, ce sont les druides qui les nomment Samil Danak. Je crois en réalité que ce sont des hommes que Dieu a choisis. En Brithia, on les appellerait des saints. Vous savez combien je suis persuadé que ce que les druides appellent la Moira est en réalité une perception encore un peu floue de notre Dieu. Ils ont construit autour de leurs pressentiments spirituels une religion assez basique, enracinée dans les légendes populaires et paysannes. C'est une religion de l'à peu près, sans écrit. S'ils avaient eu la Bible entre les mains, si le Christ leur était apparu, sans doute auraient-ils mieux compris le sens réel de la divinité. C'est pour cela que nous pourrons les convertir aisément. Il suffit de leur faire comprendre que leur instinct était juste, qu'il ne leur manque que la connaissance. La Moïra existe. Elle s'appelle Dieu.
Je sais cela, nous en avons déjà parlé. Mais la jeune fille, vous croyez que c'est... une sainte?
Aeditus haussa les épaules. Tout ce que je sais d'elle est ce que les serviteurs de Rhea racontent à voix basse. Rien de concret. Vous savez que je n'aime pas m'avancer sur un sujet sans l'avoir vraiment étudié.
Cela tombe bien, elle sera ici demain.
L'évêque eut le souffle coupé.
Comment?
Elle est avec le capitaine Sénion. Il l'a capturée dans un monastère au sud de l'Harcourt. Un messager est venu me l'annoncer ce matin. Je n'ai pas bien compris la situation réelle. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment prisonnière, qu'elle est parvenue à se libérer, qu'elle tient tête à Sénion, mais qu'elle veut tout de même venir ici.
Voilà qui est peu ordinaire.
« Rien ne semble l'être au sujet de cette fille. »
L'évêque marqua un silence pensif. « Elle a peut-être été choisie par Dieu. En effet. »«
C'est évidemment ce que je me suis dit, » répliqua le comte. « Aussi, je me demande si nous ne pourrions pas l'utiliser pour propager la foi chrétienne. La Gaelia tout entière croit en elle. Elle n'a pas encore 15 ans, je crois, et elle est déjà une légende d'un bout à l'autre du pays. » Si elle a accepté de venir ici, c'est peut-être qu'elle n'est pas hostile à notre religion.
Il faut rester méfiant, monsieur le comte. Les rumeurs disent qu'elle s'est elle-même proclamée Samil Danak.
Sans doute par défaut, parce qu'elle n'a pas encore entendu la voix du Christ. Mais on dit aussi qu'elle veut apprendre à lire. C'est ce qu'aurait affirmé le moine qui a signalé à Sénion la présence de la petite dans le monastère.
De plus en plus intéressant. Le comte acquiesça.
Je veux que nous la recevions ensemble, expliqua Alroeg. Seule. Nous devons savoir ce qu'elle croit, ce qu'elle sait, ce qu'elle veut.
Il faudra lui donner l'impression qu'elle est la bienvenue. Si nous voulons un jour la voir dans notre camp, il ne faut pas qu'elle garde un mauvais souvenir de l'Harcourt.
J'espère que les soldats de la flamme n'ont pas été violents avec elle. Il semblerait que ce soit plutôt elle qui leur mène la vie dure,
répliqua le comte d'un air presque amusé. À cet instant, on frappa à la porte de l'office.
Entrez, invita le comte.
Le serviteur qui avait annoncé à Aeditus apparut à l'entrée de la pièce.
Monsieur le comte, l'évêque Natalien vient d'arriver au château et demande à être reçu.
Natalien ?
S'étonna Alroeg.
Je croyais que vous m'aviez dit qu'il était en Terre Brune pour parlementer avec Mérian de Mort. Serait-il déjà revenu ?
Je l'apprends en même temps que vous, monsieur le comte, avoua Aeditus, tout aussi surpris.
Est-il seul ?
Demanda le comte au serviteur.
Non, monsieur. Il est en effet avec le comte Mérian de Mort de Terre Brune.
L'évêque et le comte se lancèrent un regard médusé.
Déjà ? Dans ce cas, je peux les recevoir en cet instant.
Le serviteur acquiesça.
Je les guiderai ici dès qu'ils seront prêts, monsieur,
dit-il avant de refermer la porte. Eogan se tenait debout devant la grande fenêtre ouverte de sa pièce privée, un verre d'alcool dans la main droite. C'était une petite salle au dernier étage du palais de Providence, en haut d'un escalier dérobé. Personne ne venait ici. Peu connaissaient l'accès de cette pièce sous les toits, mais tout le monde savait que le roi partait se réfugier par moments dans cette alcôve mystérieuse. On le voyait parfois à la fenêtre, quand on s'aventurait à lancer un regard indiscret au sommet du palais. De là, il pouvait voir toute l'étendue du parc. Parfois, il redescendait et donnait des instructions au chef jardinier parce qu'il avait vu quelque chose qui ne lui plaisait pas et qu'on ne pouvait voir d'en bas. Mais ce soir-là, Eogan Mor de Galassie, haut roi de Gaelia, n'était pas venu pour inspecter les jardins. Il était venu réfléchir, chercher un peu de ce calme propice à la méditation. Il avait besoin de prendre du recul. Son esprit était tiraillé entre plusieurs forces, plusieurs peurs, plusieurs envies. D'un côté, il y avait les druides. Les maîtres de Saïmina lui avaient demandé de prendre une grave décision. La guerre contre l'Harcourt allait mettre le pays à feu et à sang. C'était la deuxième fois qu'un conflit allait éclater entre l'Harcourt et le reste de l'île. Personne n'avait oublié la guerre qui avait abouti, 20 ans plus tôt, à un consensus équivoque, une paix indigeste, que seules les dizaines de milliers de morts avaient fait accepter d'un côté comme de l'autre. Combien de morts faudrait-il aujourd'hui ? D'un autre côté, il y avait Amine. Elle était la plus grande joie de sa vie. Elle avait su redonner à son existence un semblant de sens. Régner, avec elle, n'était plus une mascarade. Il avait l'impression enfin d'être un véritable roi, parce qu'elle l'aimait comme tel, et qu'elle lui donnait envie de profiter de ses pouvoirs. Et pourtant, il ne l'avait pas écoutée quand elle lui avait demandé de s'opposer aux druides. Et il n'arrivait pas à savoir s'il avait eu raison ou tort. Amine avait-elle exagéré parce qu'elle avait une haine profonde pour les hommes au manteau blanc ? Ou bien aurait-il dû l'écouter et ne pas entrer dans cette guerre derrière Saïmina ? Une chose était sûre, les druides le manipulaient depuis le début de son règne. Il avait vécu toutes ces années en se mentant à lui-même, en se faisant croire qu'il avait un réel pouvoir, alors qu'il savait déjà que les vrais dirigeants de l'île n'étaient pas à Providence, mais à Saïmina. En cela, Amine avait raison. Mais cela justifiait-il qu'il s'oppose aux druides ? Le contrôle qu'ils exerçaient sur lui signifiait-il pour autant que leur choix politique était mauvais ? Oui, les druides abusaient de leur pouvoir. Mais la guerre contre l'Harcourt n'était-elle pas absolument nécessaire ? Comment savoir ? De toute façon, il ne pouvait revenir en arrière à présent. Il avait promis au grand druide Odran que la Galassie déclarerait cette guerre. Il ne pouvait plus reculer. Et peut-être cette décision était-elle encore plus difficile à assumer, parce que pour la première fois, depuis le début de son règne, il avait l'impression d'avoir vraiment fait un choix. Un choix entre les conseils de sa femme et ceux des druides. La tristesse qu'il habitait maintenant était-elle donc le prix du libre arbitre ? Eogan se demandait s'il n'aurait pas préféré vivre dans l'ignorance. Ne pas voir combien les druides le manipulaient. Ne pas comprendre les intérêts déplacés des uns et des autres. Il se surprit à envier le baron Alvaro de Bizagne, qui, lui, ne se posait pas de questions. Il suivait aveuglément le roi, quel que soit son choix, et passait le reste du temps à se vautrer avec les siens dans le stupre et la luxure. Et Hogan sourit. Non, il n'en était pas là. Après tout, il avait tout ce dont il avait rêvé. Amine. Elle était le seul bout de liberté qu'il pouvait s'offrir dans la grande prison de sa vie. Et sûrement lui donnerait-elle un enfant. Un enfant à qui il pourrait apprendre bien plus de choses que ce que son père lui avait transmis. Un fils qui saurait faire front aux druides tout autant que les écouter. Mais pour lui, c'était trop tard. Trop tard pour refuser l'autorité de Saïmina. Le roi poussa un long soupir et leva le verre devant lui. Les reflets de la lune dansaient à la surface de l'alcool doré. La nuit était belle, et il voulait simplement vivre cet instant, oublier ce qui l'attendait pour les jours suivants. Il porta le verre à sa bouche et but l'alcool d'une traite. Il ferma les yeux quand il sentit la chaleur le long de son œsophage, puis dans son estomac. C'était une impression délicieuse. Le haut roi se retourna pour aller poser le verre sur le guéridon marbré. Mais soudain, sa vue se brouilla. Il secoua la tête pour chasser cette impression étrange. Était-il déjà saoul? Après un seul verre? Il fit un nouveau pas, et cette fois-ci, il faillit perdre l'équilibre. Il sentit dans sa tête une douleur horrible, comme une aiguille qu'on aurait enfoncée de l'autre côté de ses yeux. Le verre tomba et se brisa sur le parquet. Le haut roi vacilla, fit quelques pas en arrière et s'écroula violemment contre la fenêtre qui se brisa en mille morceaux. Les petits bouts de verre tombèrent sur lui, taillant la peau de son visage et de ses mains. Mais c'était une autre douleur qui montait à sa gorge. Et bientôt, il ne put plus respirer. Il se débattit pour chercher un peu d'air, glissa sur le verre éparpillé sous ses mains, tomba encore un peu plus en arrière. Puis sa gorge se noua complètement. Ses yeux s'ouvrirent dans une expression d'épouvante. Ses mains ensanglantées se crispèrent sur les planches de bois du parquet. La dernière chose qu'il vit fut le visage d'Amine dans l'entrebâillement de la porte. Et le poison l'emporta dans le monde des morts, au milieu du silence de la nuit.
« Soyez le bienvenu en mon château, Mériande. Cela fait bien des années que je ne vous ai vu. »
Le comte Alroeg d'Harcourt ne parlait pas sans une certaine fierté. Il était en position de force, et il avait bien l'intention d'en profiter. Quand il s'était converti, aucun autre vassal ne l'avait suivi. On l'avait pris pour un fou, et il s'était retrouvé seul face aux druides. Mais aujourd'hui, les choses avaient changé.
« Merci de votre accueil, cousin. J'aurais préféré vous voir en d'autres circonstances. C'est un comte sans patrie que vous recevez aujourd'hui. »
« Allons !» « Que me dites-vous là ?»
Samael, qui l'accompagnait, drapé de ses habits d'évêque, répondit à la place de Mériande.
« Les Toatan se sont associés aux druides pour annexer la Terre Brune, monsieur le comte. J'ai assisté moi-même au combat que le comte mort a dû livrer contre ces barbares pour défendre ses terres. La Terre Brune est en train de tomber dans les mains de Saïmina, dont les Toatan ne sont que le bras armé. »
« J'ai perdu tous mes hommes dans cette bataille, » poursuivit le comte de Terrebrune humblement. « Nous n'étions pas à la hauteur. Mais je ne peux m'y résoudre. Je viens demander votre aide pour reprendre mon territoire, cher cousin. »«
bien sûr, Mériande, »
répondit Alroeg, qui voyait enfin un moyen de s'assurer pour longtemps la fidélité de la Terrebrune.
« La guerre avec la Galatie est imminente, de toute façon, et en défendant nos intérêts. » Nous sauverons les vôtres.
Je crois, monsieur le comte,
intervint Samael,
que ce sont surtout les druides et les Toatan qui menacent nos intérêts. Et Hogan n'est qu'un pantin dans cette partie.
Un pantin, certes,
répliqua Alroeg,
mais à la tête d'une armée redoutable tout de même. Il ne faut pas négliger cela, Natalien.
Je me suis laissé dire que son épouse était opposée à cette guerre.
Insista Samael.
Le haut roi l'écoutera sans doute et ne se lancera pas à corps perdu dans la bataille. Nos véritables ennemis, ce sont les druides et leurs nouveaux alliés. Si nous parvenions à faire comprendre à la galaxie, de manière subtile évidemment, que ce n'est pas à eux que nous en voulons, mais à Saïmina et aux envahisseurs barbares. Cela renforcerait peut-être la position de la reine qui ne veut pas de cette guerre.
Alroeg se gratta le menton d'un air pensif. Il n'avait jamais vu l'évêque natalien si engagé. Il se tourna vers Aeditus.
« Qu'en pensez-vous, monseigneur ?»«
Je voudrais comprendre les motifs de la reine. Pourquoi s'opposerait-elle à la guerre ? Nous pourrions en effet utiliser cela. »
« Elle déteste les druides !»
répliqua Samael sans attendre qu'on lui donne la parole. C'était sans doute risqué, en présence du comte d'Harcourt, que de parler si vite sans y être invité. Mais Samael voulait convaincre et avancer ses arguments suffisamment vite pour qu'aucun n'ait le temps d'y opposer de réserve. Il ne pensait qu'à une seule chose, les manites. Il avait vu le pouvoir de l'épée de Nuadu. Il était sûr à présent que celui qui posséderait les quatre artefacts réunis pourrait soumettre le pays tout entier. Et il n'avait nulle autre motivation.
Amin Salia, l'épouse du roi, et Vat,
continua-t-il en regardant successivement ses trois auditeurs.
Elle est arrivée à Providence orpheline, et on l'a obligée à suivre l'enseignement des druides. Elle fut une élève brillante, et quand elle comprit qu'elle ne pourrait jamais devenir druide, alors que son savoir était 10 fois supérieur à celui de bien des apprentis, et cela simplement parce qu'elle était une femme, elle en conçut une haine inaltérable pour la caste des druides.
Elle voulait devenir druide,
s'étonna le comte Alroeg.
Archidruide même, qui sait? En tout cas, elle a Saïmina en horreur, et en cela nous pouvons nous rapprocher d'elle.
Voilà qui est très intéressant,
admit Alroeg en se levant de son bureau.
C'est pour cette raison que nous devons éviter à tout prix le conflit avec la galaxie, mais accabler en revanche les druides et les Touatanes,
reprit Samael en regardant le comte s'éloigner vers la fenêtre.
Si nous parvenions à abîmer la réputation de Saïmina auprès des gens de Galaxie, le tour serait joué. Qui sait? Et Hogan lui-même pourrait un jour nous aider à installer enfin le christianisme sur cette île.
Je doute qu'il aille jusque-là, Natalien,
répliqua Alroeg, amusé.
Mais je crois que nous pouvons en tout cas nous assurer de sa neutralité, si sa femme déteste les druides à ce point.
Je suis formel à ce sujet,
affirma Samael. Les déteste-t-elle autant que vous? Demanda Aeditus. La malice de l'évêque n'échappa point à Samael. Il savait qu'Aeditus se méfiait de lui. Le comte lui-même devait avoir des doutes sur ses motivations réelles. Mais cela n'avait aucune importance. Eux voulaient étendre l'influence de leur religion sur l'île. Lui souhaitait se venger des druides et récupérer les 3 manites que les Touatanes leur avaient offerts. Leur convoitise n'était pas contradictoire. C'était tout ce qui comptait.
« Nous ne pourrons étendre notre religion sans nous débarrasser d'eux, »
dit-il simplement. Alroeg acquiesça. Il se moquait sans doute des raisons secrètes de l'évêque natalien. Pour le moment.
On dit que les Touatanes sont des guerriers redoutables,
reprit le comte d'Harcourt pour bien montrer qu'ils étaient d'accord sur le point précédent.
Les plus féroces que j'ai rencontrées,
confirma Mériande, hantée par le souvenir de la bataille de Ténian.
Ils sont à la fois sauvages et organisés,
ajouta Samael.
Leur manière de se battre est un art véritable. Et on dirait qu'aucun d'entre eux ne craint la mort, ce qui est la plus grande force du guerrier.
Pourrons-nous en venir à bout?
S'enquit Alroeg.
S'ils étaient aussi nombreux que nos soldats, nous n'y parviendrions sans doute pas,
admit Samael.
Mais leur nombre est faible. Ils ont perdu beaucoup d'hommes au cours de leur invasion. D'autres encore sont morts pendant la bataille contre Mériande Mort. Et surtout, ils ont perdu leur chef. Ils sont particulièrement affaiblis en ce moment, et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas attendre.
« Vous pensez la même chose ?»
demanda Alroeg au comte de Terrebrune.
« Je le crois. En tout cas, je ne vis plus que pour une seule chose, les battre. J'ai perdu beaucoup d'hommes dans la forêt de Ténian, mais je n'ai pas perdu mon courage. Bien au contraire, je suis plus décidé que jamais. Si vous acceptez, je voudrais réunir en Terrebrune tous les hommes qui veulent, avec moi, défendre cette terre. » Et nous vous rejoindrons pour mettre un terme à cette insupportable invasion. Quant aux druides, je veux qu'ils paient chacune des morts dont ils sont responsables au sein de mon armée.
Combien d'hommes croyez-vous pouvoir réunir derrière votre bannière?
Des vrais soldats? 3 ou 4 000, peut-être plus si je prends le temps. Mais il y aurait aussi, si nous le voulons, de simples brunois, par milliers, paysans, artisans, commerçants, qui seront prêts à se battre pour leur terre.
« Non, » répliqua Alroeg. « J'espère que nous n'en arriverons pas là. Trouvez déjà ces 3 000 soldats. C'est peu, mais cela sera malgré tout une aide bienvenue pour nos troupes. »
« La rage multipliera nos forces par 2, » affirma Mor.
« La foi dans le Christ multiplie les nôtres par 10, cher cousin. »
« Aidez-moi à reprendre mes terres, et je ne jurerai plus que par votre Dieu, »
promit Mériande en s'inclinant devant le comte d'Harcourt.
« Avec notre armée et la vôtre, nous n'aurons aucune peine à reprendre la terre brune au Tuatan, j'en suis certain. C'est plutôt Saïmina qui m'inquiète. Le conseil compte 10 de grands druides, et sans doute 100 de druides avec eux. Ce seront des adversaires redoutables.
Nous pouvons tenter de semer le trouble à Saïmina aussi,
suggéra Samael.
Comment?
S'étonna Alroeg.
Depuis l'arrivée de cette jeune fille, Aléa, on dit que le conseil rencontre quelques problèmes. Il paraît même que l'un des grands druides a été banni. Saïmina traverse une crise que nous pourrions tourner à notre avantage.
Le comte d'Harcourt regarda l'évêque d'un air admiratif.
Nathalien, vous semblez très au fait de tout cela. Je pense que vous pourriez nous être d'une grande aide dans cette affaire. Vous n'êtes pas un guerrier, et mes généraux sont déjà très compétents. Je ne vais pas vous demander de participer à la stratégie. Mais les guerres ne se gagnent pas uniquement sur les champs de bataille. Si Aeditus n'y voit aucune objection, j'aimerais que vous vous chargiez des affaires secrètes pour toute la durée des hostilités. Je vous en donnerai les moyens. Espions, guerriers, assassins, tout ce dont vous aurez besoin pour participer à la victoire. Je me charge d'attaquer les Tuatan et les druides de front. Je vous laisse les prendre à revers, là où ils ne nous attendent pas.
Samael ne put s'empêcher de sourire.
« Ce sera un honneur, comme un véritable plaisir, monsieur le comte. »«
Je n'en doute pas, Nathalien, je n'en doute pas. »« Monseigneur Aeditus, je vous saurai gré d'aider Nathalien, vous qui connaissez mieux que lui les rouages de notre administration. »« Quant à vous, Mériande, vous avez 6 pour réunir votre armée. 6, pas un de plus. » Dans 6, nous passerons à l'attaque. À présent, laissez-moi, je vais devoir consulter les généraux. Vous savez tous ce que vous avez à faire.
Les 3 hommes acquiescèrent et se retirèrent en silence, satisfaits. Ils avaient chacun une raison différente de vouloir cette guerre, mais le même sentiment les motivait. La vengeance. La roulotte filait sur les routes de Galatie sans interruption, du matin jusqu'au soir. Les chevaux semblaient ne jamais fatigués. Kathleen, Mel et Fingin se relayaient pour ne pas perdre le rythme. Ils longèrent le fleuve pourpre pendant 2, puis ils passèrent au sud de Cluilin, au-delà des montagnes de Gordraka. La plaine commençait à s'élever vers l'ouest, et les villages se faisaient de plus en plus rares. Ils dormaient et mangeaient dans la roulotte, obligés à une intimité qui les rapprochait chaque jour un peu plus. Fingin en oubliait presque qu'il était grand druide. Il avait presque l'impression de devenir cheminant, lui aussi. Pour ne pas attirer l'attention, À l'approche du comté d'Harcourt, il ôta même la robe blanche de sa caste, rangea son bâton de chêne et s'habilla comme un acteur. Si ce n'était son crâne chauve qu'il cacha sous un chapeau jaune, plus rien ne pouvait trahir son appartenance au conseil. Il avait même adopté les manières des cheminants et leur façon de parler. La transformation amusait Mel et Kathleen, qui le surnommaient « le druide cheminant » et lui apprenaient de petits rôles dans leurs pièces favorites. Fingin se pliait à ces jeux, qui rendaient le voyage plus agréable, mais continuait régulièrement de discuter avec les acteurs de sujets plus sérieux. Il aimait se confronter aux certitudes de Mel, qui lui-même ne manquait pas de bousculer les siennes. Le cheminant l'obligeait à remettre toujours en question les 7 années d'études qu'il avait passées à Saïmina, à les analyser sous un nouvel éclairage. Et même si l'esprit de contradiction de l'acteur était un peu trop systématique, Fingin devait reconnaître que cela l'aidait dans sa compréhension des choses, de la Moira, ou de la vie tout simplement. Au soir du 5e jour, alors qu'il n'était plus qu'à quelques heures de Ria, les 3 amis firent une rencontre inespérée. Le soleil avait depuis longtemps disparu derrière les montagnes, mais la nuit était claire et bleutée. Quelques courants d'air timides secouaient par moments les flammes du feu qu'ils avaient allumé. Les ramures pyramidales des pins se dessinaient au sud, formes noires et hautes qui grimpaient sur les flancs de Gordraka. L'air était embaumé du parfum de leurs aiguilles. La lueur des flammes se réfléchissait sur les peintures colorées de la roulotte, dansantes courbures jaunes sur le rouge de la porte, le bleu des parois, le vert des fenêtres et les grands rayons des roues. Ils étaient assis, mangeaient en silence la volaille qu'ils avaient grillée sur le feu. Mel venait de leur dire le monologue de l'épreuve, du barde Ohayon. C'était une pièce émouvante, pleine de nostalgie, où le héros pleurait les heures disparues de ses plus belles amitiés. Le texte était si touchant que tous 3 n'avaient pu dire un seul mot depuis lors. Sans doute chacun d'eux pensait-il à des peines similaires, quand soudain, ils entendirent une exclamation à côté de la roulotte.
« Ça par exemple !»
Ils sursautèrent tous les 3 et se dressèrent d'un bond pour voir l'homme qui venait de les surprendre. Fingin resta bouche bée. Il avait cru reconnaître la voix et ne pouvait oublier ce visage. Galliad, le père d'Erwan.
« Fingin ?»
s'écria le magistel qui lui-même n'en revenait pas. Aussitôt, une autre silhouette apparut derrière lui. Fingin serra les poings. Était-ce possible?
Erwan?
Le druide se précipita vers les 2 hommes et les embrassa vigoureusement. Toujours assis, les 2 acteurs se regardèrent, perplexes, spectateurs passifs de ces retrouvailles visiblement extraordinaires.
Comme je suis heureux de vous voir!
S'exclama le druide en serrant Erwan dans ses bras. Les 2 amis restèrent un moment ainsi, si surpris et si heureux qu'ils en oubliaient volontiers la réserve qu'aurait dû leur inspirer leur rang respectif. Puis Fingin embrassa Galliad à son tour, sans plus de retenue.
« Quel bonheur! Voici Kathleen et Mel !»
dit finalement le druide en désignant les acteurs.
« Ravie de vous connaître !»
dit Kathleen en tendant la main à Erwan. Ainsi, ils firent tous connaissance dans une bonne humeur communicative, puis s'assirent enfin ensemble autour du feu. Fingin ne s'était toujours pas remis de sa surprise.
« Nous n'étions pas sûrs que c'était toi »,
expliqua Erwan un peu moqueur.
« Je n'ai pas l'habitude de te voir déguisé de la sorte. »«
Et il fait un parfait cheminant, n'est-ce pas ?»
rétorqua Mel en souriant à son tour.
« Mais comment est-il possible que nous nous retrouvions au même endroit ?»
reprit le druide, encore stupéfait.
« Peut-être allons-nous dans la même direction ?»
suggéra Galliad, sans trop oser en dire.
« Tu peux parler librement, magistel. Mel et Kathleen sont mes amis, et ils ont accepté de m'accompagner. J'ai quitté le conseil pour vous retrouver, vous et Aléa. »«
Vous avez quitté le conseil ?»
s'étonna Galliad avant de sourire.
« Cela me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. »
« J'ai appris la mort de Félim, » dit alors Fingin, d'un air désolé. « La nouvelle m'a bouleversée, bien sûr, mais cela doit être encore plus dur pour vous. » Galliad acquiesça. Puis en essayant de sourire, il ajouta.
Vous avez choisi votre propre magistel, m'a-t-on dit.
Et je suis bien content de le retrouver, je vous le confesse. Erwan, tu m'as tellement manqué. Par la Moïra, quelle joie de vous voir tous les deux.
Le druide poussa un long soupir de contentement. Tout le monde souriait autour de lui.
Galiad, reprit-il, je ne sais pas ce que vous avez décidé pour l'avenir, et je ne suis pas sûr que ma proposition plaise au conseil. Mais après tout, je ne suis plus à ça près. Si vous le voulez bien, je crois qu'un deuxième magistel ne serait pas de trop à mes côtés.
Aldaman sourit. Il prit la main du jeune druide entre ses paumes.
Merci. Votre offre me touche. Ce serait un honneur infini. Mais j'ai un autre dessein. Il y a une autre personne qui a encore plus besoin d'un magistel que vous, si vous me pardonnez cet orgueil.
Aléa ? Demanda le jeune druide.
Galiad acquiesça. Les Samil d'Anak n'ont pas souvent eu de magistel, mais je crois que celle-ci en a besoin. Et je pense que c'est ce que Félim aurait voulu que je fasse.
Sûrement, conclut Fingin.
Vous allez donc à Rhia.
Non, répondit Galiad surpris.
En réalité, nous ne savons pas vraiment où nous allons, même si nous pensons que c'est au mont Tombe.
Que voulez-vous dire ?
Galiad regarda son fils et lui fit signe d'expliquer, comme s'il s'en sentait incapable.
Aléa a envoyé... Comment dire ? Eh bien, disons qu'Aléa a envoyé une louve pour nous guider.
Une louve ? S'étonna Fingin.
Oui, une louve blanche.
Tu ne me croiras jamais, mais je fais des rêves où Aléa vient me parler.
Fingin fronça les sourcils. Cela se pouvait-il ?
Il se souvenait des paroles de Kiaran. Nombreuses sont les personnes qui se rendent chaque nuit dans le monde de Jar. Certaines qui le savent, et d'autres qui y vont sans s'en rendre compte.
Cela ne me paraît pas si incroyable que ça, Erwan.
Dans un de ses rêves, elle m'a annoncé qu'une louve allait venir pour me mener jusqu'à elle. Et la louve est venue. Nous la suivons depuis lors. Elle semble vraiment nous guider. C'est assez incroyable.
Et vous dites, Galiad, qu'elle se dirige vers mon tombe.
J'en suis presque sûr. Nous avons fait un détour par ici quand j'ai découvert votre trace. Mais nous allons plus au sud que Rhia, ça, j'en suis certain.
Pourtant, c'est à Rhia qu'elle se trouve, assura le jeune druide. Elle a été capturée par les hommes d'Arcour, des soldats de la flamme.
Capturée ?
Il semblerait, oui.
Mais peut-être avait-elle l'intention d'aller au mont Tombe avant qu'elle ne se fasse prendre. Cela expliquerait que la louve veuille vous mener là-bas, si vraiment elle est capable de comprendre la volonté d'Aléa.
Fingin s'arrêta de parler et réfléchit un instant. Ses compagnons restèrent silencieux, eux aussi, voyant qu'ils cherchaient quelque chose.
C'est étrange, reprit-il. Maintenant que j'y pense, quand j'étais à Saïmina, j'ai demandé à Asdem, le boulanger, ce qu'il savait d'Aléa. Il m'a parlé des nombreuses rumeurs qui couraient sur votre ami, et l'une d'elles m'avait paru bizarre à l'époque. Il a dit que les gens croyaient qu'elle pouvait parler aux animaux.
Les rumeurs sont souvent basées sur quelques faits réels, intervint Caitlin.
Il y a toujours un peu de vérité, même dans les pires ragots.
Erwan regarda son père.
Comment faire ? Nous devrions aller avec Fingin à Rhia, je pense. Mais la louve ? Si nous arrêtons de la suivre, que va-t-elle faire ?
Je n'en ai aucune idée, répondit le magistel. Il faudrait pouvoir lui parler, comme le fait Aléa. Mais nous n'en sommes pas capables.
Elle comprendra d'elle-même,
intervint Mel.
Les loups sont des animaux très intelligents. Ne vous faites pas de soucis pour elle. Peut-être se mettra-t-elle à vous suivre à son tour.
Erwan acquiesça.
Ce qui compte, dit-il, c'est que nous retrouvions Aléa, Mjoln et Face. J'espère seulement que nous n'arriverons pas trop tard.
Avec la roulotte, nous allons assez vite, expliqua Caitlin. Nous pouvons être à Rhia demain matin.
Tout le monde sembla approuver la chose. S'il faut délivrer Aléa demain, dit Galliad en se levant, autant nous coucher tout de suite. Nous allons avoir besoin de toutes nos forces.
Je suis vraiment content de vous voir, répéta Fingin en prenant la main de Galliad.
Merci. Vous n'avez pas à me remercier. C'est la Moïra qui a croisé nos chemins. Et je ne vous ai pas encore félicité pour votre accession au conseil. Félim m'avait dit que vous feriez un druide exceptionnel. Il avait raison. À ce que je sache, jamais druide n'est entré au conseil aussi jeune. Je suis fier que mon fils soit à votre service, Fingin.
Nous vengerons la mort de Félim, Magistel. Je vous le promets.
Caitlin se leva pour préparer deux nouvelles places dans la roulotte et ils partirent tous se coucher. Fingin, toutefois, resta encore longtemps éveillé, les yeux grands ouverts. Il souriait à l'obscurité. Il avait retrouvé son magistel. Il se sentait druide, de nouveau. Au château d'Harcourt, Aléa avait demandé à ses deux compagnons de l'attendre dans les chambres qu'on leur avait préparées. Elle voulait voir le comte Alroeg seul. Elle entra dans l'immense office de l'édifice somptueux qui dominait la ville de Rhia. Les images de Saïmina revinrent à sa mémoire. C'était la même grandeur, la même majesté, un luxe auquel elle n'avait jamais été habituée. La décoration ici était peut-être plus brute, moins délicate, mais une autre noblesse se dégageait des murs de marbre gris, des meubles simples et droits, des larges tapis monochromes. Alroeg était assis à un bureau, à l'autre extrémité de la pièce, et à sa droite se tenait un homme vêtu d'une aube mauve et d'une mitre. Aléa comprit aussitôt qu'il devait s'agir de l'évêque Aeditus.
« Entrez, mademoiselle !»
l'invita Alroeg en se levant, et sa voix résonna dans toute la pièce.
« Entrez, je vous en prie !»
Aléa ne s'était pas attendue à un tel accueil. À leur arrivée, déjà, les serviteurs s'étaient précipités pour leur souhaiter la bienvenue et les guider à travers le château. On avait préparé leur chambre où les attendaient des paniers de fruits, des boissons et de grands bains chauds. La jeune fille devinait les intentions du comte derrière chaque politesse de ses sujets. Ainsi, il ne voulait pas l'éliminer, mais plutôt la rallier à lui. Sans doute espérait-il qu'Aléa pourrait l'aider à combattre les druides. C'était l'explication la plus rationnelle, en tout cas. « Merci, » dit-elle en s'asseyant sur le siège que le comte lui tendait. Alroeg retourna s'installer de l'autre côté de son bureau. L'évêque, lui, n'avait toujours pas parlé. Il s'était contenté d'incliner poliment la tête et se tenait toujours debout, à la droite du comte.
« On parle beaucoup de vous, Aléa. Je ne connais même pas votre nom de famille. »
Moi non plus, répliqua la jeune fille en souriant.
Le comte parut gêné.
Eh bien, je vous appellerai Aléa, alors.
Je préfère que vous m'appeliez Caïliana.
Alroeg peina à cacher que l'aisance de la jeune fille le déstabilisait.
Si vous voulez,
concéda-t-il.
Je disais donc, on parle beaucoup de vous ici. Mais personne ne sait exactement qui vous êtes, ni même ce que vous voulez.
Je suis Caïliana, fille de la Terre. Dans mes veines coule le sang de la Galaxie et celui du Cid.
L'évêque fit un léger mouvement qui trahit sa surprise.
Et ce que je veux, continua Aléa en souriant, c'est que cette terre dont je suis la fille retrouve la paix qui lui était promise avant que des gens comme vous ne viennent la trahir. « En somme, c'est assez simple. »
Alroeg se mordit la lèvre. Non, cela n'allait pas être simple. Mais il savait que la jeune fille était capitale dans ce qui se tramait aujourd'hui même sur toute l'île de Gaelia. Aussi impertinente qu'elle fût, il valait mieux la voir dans son camp que dans le camp adverse.
« Je peux entendre vos pensées, Alroeg, » reprit Aléa sèchement. « Je n'entrerai ni dans votre camp, ni dans celui de vos ennemis. »
Le comte resta bouche bée.
« Je peux aussi lire les vôtres, » continua la jeune fille en s'adressant à présent à l'évêque. « Vous savez donc que je suis un homme sincère ?»«
répliqua Éditus, qui s'y était visiblement attendu.
Je sais surtout que vous me prenez pour une enfant un peu folle, comme un jouet de votre dieu. Mais je ne suis le jouet de personne, Éditus, ni celui des druides, ni celui de votre dieu, ni même celui de la Moïra. Je suis la fille de la terre, et c'est en cette seule qualité que je viens vous demander d'abandonner toute action contre les Touatanes, les druides ou la galaxie.
En cette qualité seule, intervint Alroeg, impatient. Vous ne prétendez donc pas être le Samil d'Anak?
Les druides m'appellent ainsi. Savez-vous ce que ce mot veut dire?
Le comte haussa les épaules.
Cela ne m'a jamais intéressé.
Celui qui possède tous les pouvoirs.
La traduction exacte serait le polytechnicien.
Je suis peut-être une enfant orgueilleuse, mais je reconnais que je suis très loin d'avoir tous les pouvoirs. Le seul que je sois sûr d'avoir, c'est celui de faire peur aux gens comme vous, et je suis prête à m'en servir.
Vous pensez me faire peur, vous ?
S'étonna le comte en souriant.
Ah, le ton change. Vous vouliez jouer la tendresse avec moi, la bienveillance, pour m'appâter, n'est-ce pas ? Mais voilà, il a suffi que je blesse votre orgueil et déjà le masque tombe.
Je n'ai aucun masque, jeune fille. Je suis simplement un dirigeant courtois et contrairement à la plupart de mes sujets, je voudrais vous donner une chance. Le bénéfice du doute. Je n'aime pas juger les personnes que je n'ai pas rencontrées.
Et vous aimez juger les autres ? À quel jeu jouez-vous ? Intervint Aeditus. Si vous êtes venu nous demander une faveur, car il s'agit bien d'une faveur, ne croyez-vous pas que vous devriez vous montrer plus courtoise à l'égard du comte? On dirait que vous n'espérez qu'une chose, mettre le comte en colère.
Je n'ai pas l'habitude d'user d'un charme fin pour parvenir à mes fins. Je dis ce que je pense, et je dis les choses comme elles sont. J'attends des gens qu'ils aient la même sincérité envers moi. Vous avez voulu jouer les gens sympathiques pour tenter de m'amadouer, et c'était une grossière erreur. Parlez vrai, ou ne parlez pas.
Le visage du comte s'obscurcit.
Vous voulez que je sois sincère, jeune fille? J'ai beaucoup mieux à faire que vous regarder vous complaire dans une joute verbale. Voilà de la sincérité. Vous n'êtes qu'une petite prétentieuse que j'ai eu tort de vouloir entendre. J'ai une guerre à préparer. Et si vous n'avez rien de mieux à me dire que ces suffisances, alors notre conversation est finie.
Aléa sourit. En sondant son âme, elle avait trouvé ce qu'elle était venue chercher. Elle savait à présent quel type d'homme était le comte, et elle avait même pu découvrir Aeditus. Elle n'avait besoin de rien d'autre. La paix se ferait sans eux, elle en était sûre à présent. Elle regarda le comte se lever et appeler ses soldats.
Emmenez cette petite sotte au cachot et que ses deux amis la rejoignent. Enfermez-les en attendant que je décide de leur sort. J'ai mieux à faire aujourd'hui.
Aléa ne réagit pas et laissa les deux soldats l'escorter jusqu'à la sortie de la pièce. Quelques instants plus tard, elle était avec Mjoln et Feys dans l'obscurité d'une cellule. Odran était arrivé au milieu de la nuit à Philiden, où les Touatanes siégeaient toujours. Il patientait à présent dans la caserne qui servait de quartier général au clan Maatangor. Il se demandait s'il pourrait convaincre les Touatanes comme il avait convaincu le roi. Il n'attendit pas longtemps. À peine eut-il fini l'infusion qu'on lui avait apportée, que tous les chefs de clan arrivèrent dans l'immense pièce obscure et vinrent s'asseoir par terre autour de la grande table basse. « J'ai appris la mort de Sarkhan, » commença Odran d'un ton grave. « Que la terre veuille bien accueillir le chef des clans pour toujours. » Les Touatanes acquiescèrent. Le druide connaissait le protocole.
« Notre peuple connaît depuis longtemps le prix de la guerre, »
dit un homme à la droite du grand druide.
« C'est pour cette raison que nous devons y mettre un terme, »
intervint le plus jeune d'entre eux. Odran, surpris, leva les yeux vers celui qui venait de parler. Une phrase inattendue pour un Touatane. Les habitants du Cid étaient plus connus pour leur art de la guerre que pour celui de la paix.
Mon père devra être le dernier Touatane mort pour Eriu.
Ainsi c'était le fils de Sarkhan lui-même. Odran comprit qu'il allait rencontrer une résistance qu'il n'avait pas suspectée.
« Je suis venu vous annoncer que nous entrions en guerre contre l'Harcourt. Le roi engagera également ses troupes à nos côtés. Mais cette guerre vous concerne aussi, car elle est menée contre nos ennemis communs. Nous avons besoin de vous. »
« Nous ne voulons plus de guerre !»
le coupa Tagor, furieux. Le grand druide sursauta.
« Tagor parle en son nom !»
intervint un autre chef de clan.
« Nous n'avons pas encore discuté de la chose. Nous n'avons même pas encore eu le temps de nommer un nouveau chef des tribus. »«
Je succéderai à mon père comme le veut la tradition !» répliqua Tagor.
« Tu es trop jeune, et tu dis toi-même que tu ne veux pas la guerre !»
rétorqua le Tuatan.
« Le chef des clans doit être un guerrier !»«
Cela était vrai, mais cela ne doit plus l'être. Notre peuple doit changer !»«
La guerre est à vos portes, que vous le vouliez ou non, » expliqua Odran en regardant le fils de Sarkhan.
« Le conseil, comme vous, veut la paix. Mais pour l'avoir, nous devons d'abord éliminer ceux qui la menacent. L'Harcourt. »
« La guerre ne finira que quand Eriu sera entière, »
continua Aishan, le chef de clan à la droite du druide.
Nous attaquerons l'Harcourt à vos côtés si vous nous cédez une partie de leur territoire au moment du partage. Le nord de la Terre Brune ne nous suffit pas.
Le grand druide hocha lentement la tête.
Cela me paraît équitable, affirma-t-il.
Aishan ne peut décider pour tous les clans,
protesta Tagor.
Ce privilège revient au chef des tribus. Mon père est mort. C'est donc à moi de le remplacer, au moins provisoirement.
« Personne ne voudra d'un chef qui refuse de se battre !»
rétorqua Aishan.
« Les femmes le voudront, et les hommes de mon âge qui sont lassés de vos combats. Les anciens aussi, peut-être. »«
Si vous ne nous aidez pas, » intervint Odran, « nous risquons de perdre cette bataille. Et alors l'Harcourt marchera sur vous, et nous ne serons plus là pour vous aider. »
« Ce n'est pas la seule issue. » Je veux croire que nous pouvons trouver un accord avec les 5 fiefs de l'île sans passer par la guerre. Tout le monde a vu aujourd'hui que nous sommes des guerriers valeureux. À ce jour, nous sommes en position de force. Nous pouvons utiliser cela pour trouver un accord de paix et une nouvelle répartition territoriale qui rétablira la sérénité sur l'île.
« Cela ne nous suffirait pas !»
protesta un autre chef de clan.
« Bien. Je crois, » reprit Odran d'un air agacé, que nous ne pourrons pas venir à bout de cette conversation tant que vous n'aurez pas élu votre nouveau chef. »
Le druide avait insisté sur le mot « élu ». Il savait que si le chef devait être choisi par un vote, alors Tagor n'avait aucune chance. Le seul espoir du jeune homme pour devenir le chef des clans était de faire jouer son hérédité.
« La crise est grave, » continua le druide. « Les conflits se multiplient. Vous devez choisir au plus vite un chef qui pourra vous sortir de ces difficultés.
« Notre deuil de Sarkhan n'est pas fini, » expliqua Aishan. « Il était un grand chef. »«
Nous devons tout de même choisir notre guide, » rétorqua un autre Tuatan. « Je contesterai sa nomination, » intervint Tagor en frappant du poing sur la table. « Je suis le fils de Sarkhan le Jeune, je revendiquerai ma place, et si elle ne m'est pas accordée, alors je quitterai les clans, et ceux qu'ils voudront pourront partir avec moi. »«
L'unité du Cid ne doit pas être rompue !»
s'emporta Aishan.
« Nous devons faire nos choix ensemble !»«
Je refuse une nouvelle guerre, et si c'est le choix que vous faites, alors je devrais partir. »
Il y eut un long silence autour de la table. Les Tuatan n'avaient pas l'habitude de voir un conflit dans leur propre rang, surtout en présence d'un étranger. Mais tous les chefs de clan ici étaient d'accord. Sarkhan l'avait dit. « Eriu se fera dans le sang. Nous n'aurons notre terre qu'au prix de nombreuses morts. » Pourtant, ils savaient que Tagor n'était pas le seul à vouloir que le conflit prenne fin. Il fallait à tout prix éviter qu'il puisse convaincre d'autres guerriers. Tagor ne devait pas succéder à son père.
« Le clan Maatangor choisira demain son nouveau chef dans le secret, »
déclara Aishan.
« Et celui-là deviendra le chef des clans. »
Les autres acquiescèrent. Tagor, qui comprit qu'il ne pourrait pas gagner cette bataille, se leva et quitta la pièce sans ajouter une parole. Le lendemain, Malden fut nommé à la tête du clan Maatangor et prit ainsi la place de chef de toutes les tribus. Il confirma aux druides que les Tuatan participeraient au combat contre l'Harcourt. Le soir, Tagor annonça qu'il quittait les clans et invita tous ceux qui voulaient que la guerre s'arrête à le rejoindre dans les montagnes de Gordraka, où il voulait se retirer. Une quinzaine de Tuatan seulement se levèrent pour le suivre, mais pour Tagor, ce n'était qu'un début.
Le monde de Jar est plus obscur que d'ordinaire. Est-ce parce que je suis enfermée dans cette cellule? Ou bien est-ce à cause de celui-là que je ne vois pas? Qui est-il? On dirait qu'il m'observe depuis longtemps. Son ombre me rappelle celle de Maol Morda, et pourtant ce n'est pas lui. Je dois m'approcher. Il me fait signe de le rejoindre. Je devrais avoir peur, mais j'ai besoin de savoir. Quel homme peut jeter ainsi sur Jar une telle obscurité? Peut-être devrais-je appeler Kiaran. Il pourrait m'assister.
Bonjour, Aléa.
C'est un druide. Un grand druide même, et pourtant je ne l'ai jamais vu au conseil.
Je suis Samael.
Ainsi, voici donc le deuxième renégat. La chose va être intéressante.
Sais-tu que je suis en ce moment même au château de Rhia, comme toi? Oh, tu ne pourrais pas me reconnaître, j'ai une autre identité dans ce monde-là. Et nous ne nous sommes pas encore croisés.
Que voulez-vous?
Veux-tu que j'ouvre la porte de ta cellule pour que nous discutions un peu dans l'autre monde?
Je peux ouvrir cette porte seule, et nous pouvons très bien parler ici.
Tu es méfiante. Tu as raison.
De quoi voulez-vous donc parler?
Connais-tu mon histoire?
Non.
C'est à peu près la même que la tienne, ou que celle de Félim. J'ai été bannie par le conseil des druides.
Alors nos histoires n'ont rien à voir, Samael. Je n'ai pas été bannie, je n'ai jamais fait partie du conseil. Son visage m'apparaît plus clairement. Il y a dans ses yeux une lueur trouble qui me met mal à l'aise, comme un feu sombre qui ronge ses pupilles.
Tu vois très bien ce que je veux dire, Aléa. Ne jouons pas sur les mots. Disons que nous avons tous trois été rejetés par le conseil.
Vous avez été plus nombreux que cela dans l'histoire de Saïmina, il me semble. Il y a aussi eu Maol Morda, n'est-ce pas?
Lui n'a pas été banni. Il est parti de son plein gré, si je puis dire. Alors que Félim et moi avons été rejetés pour des raisons philosophiques et politiques à la fois.
Félim voulait seulement me défendre.
Mais vous,
qu'aviez-vous fait?
Entre autres choses, j'ai nié l'existence de la Moira.
Je vois, la chose ne risquait pas de leur plaire.
Et pourtant, Aléa, tu sais, comme moi, que la Moira n'existe pas. Que c'est une pure invention des druides, n'est-ce pas?
Je ne dirais pas cela.
Ah, je te croyais plus avancé sur le chemin de la connaissance. Mais je sais que tu as des doutes.
Qui n'en a pas?
Moi. Moi, je n'ai plus aucun doute. La Moira est un mensonge, Aléa, et tu en es la preuve. L'une des preuves, en tout cas. Ce qui explique la grande gêne du conseil. Tu sais quelle est la première précaution du criminel, Aléa?
Non.
Éliminer les preuves. Toi et moi dérangeons le conseil des grands druides. Moi, parce que j'affirme que la Moira n'existe pas. Et toi, parce que tu es une fille et que tu as autant de pouvoir que ces comploteurs, si ce n'est plus.
Où voulez-vous en venir?
Je voudrais que la vérité éclate, Aléa.
Quelle vérité?
La Moira est une pure invention des druides. Enfin, c'est évident!
N'existait-elle pas dans les légendes gaéliennes bien avant que les druides n'arrivent sur l'île?
Si, justement. C'était une croyance primitive que les druides ont assimilée pour ne pas bouleverser les habitants de la Gaélia. Ils l'ont faite leur et ne jurent aujourd'hui que par elle. À vrai dire, je suis certain que certains druides y croient d'ailleurs dur comme fer. Mais les premiers druides, eux, savaient très bien que ce n'était qu'une invention pour enlever au peuple son libre arbitre.
Et alors ?
Et alors, il faut mettre fin pour toujours à cette supercherie.
Comment ? Il sourit.
En éliminant les druides et en détruisant Saïmina.
Vous voulez tuer tous les druides ?
Il n'y a pas d'autre voie. Et avec ton aide, Aléa, cela n'est plus un rêve. J'ai moi-même quelque avantage sur les druides.
Samael, la haine a abîmé votre raison.
Pas du tout. Au contraire, j'y vois beaucoup plus clair à présent. Et sans les druides, toi et moi pourrions diriger ce pays comme nous l'entendons.
Je n'ai ni envie de tuer les druides, ni envie de diriger ce pays, ni envie de m'associer avec vous, Samael. Vous avez perdu la raison. Les conclusions que vous tirez de vos déductions religieuses ne sont pas les bonnes. Ne plus croire en la Moïra ne vous oblige pas à tuer tous ceux qui prêchent son existence.
Quand ils ont le monopole du pouvoir, si.
Libre à vous de convaincre les gens de ce que vous croyez, mais par la raison, non par la force. Il se tait, comme s'il était déçu. Croyait-il vraiment que j'allais le rejoindre ? Je ne comprends pas. Encore une fois, mon image m'échappe. Les gens m'imaginent tel qu'ils le désirent, non pas tel que je suis. Si je veux un jour avoir une chance d'être comprise, de servir à quelque chose, je dois envoyer une image forte de moi-même. Je dois faire passer un message clair. Je dois me révéler. Samael, je ne suis pas intéressée par votre démarche, et je crois que vous devriez réfléchir davantage. Quelque chose me dit qu'au fond de vous subsiste un homme raisonnable. Vous n'êtes sûrement pas le monstre que le conseil dit que vous êtes, mais vous vous trompez, Samael, et c'est dommage.
Je me trompe, et toi tu as raison, c'est cela. J'ai déjà entendu ça quelque part, tu ne vaux pas mieux que les druides. Tant pis pour toi. Je pouvais t'aider à sortir de ce trou, à sortir de cette vie ordinaire pour enfin servir le monde, pour enfin agir. Mais tu ne le veux pas, alors tu devras t'incliner, comme tout le monde. Au revoir, Aléa.
Attendez. Il s'arrête. Il se retourne. Vous ne croyez pas en la Moïra, Samael, ni au dieu des chrétiens. Et pourtant vous utilisez le Saïman.
Il n'y a pas de contradiction.
Peut-être pas, mais alors comment expliquez-vous ce pouvoir ?
La sélection, Aléa. La sélection. Je crois qu'il y a dans le monde différents types de plantes, différents types d'animaux, différents types d'hommes. Certains sont plus forts que les autres. Je fais partie, comme toi, des surhommes, Aléa. Il n'y a rien de divin là-dedans. Crois-tu que c'est la Moïra qui te donne ta force ?
Je ne sais pas, Samael. Je ne sais pas.
Quand tu sauras, j'espère qu'il sera encore temps pour toi de me rejoindre.
Il disparaît. Je ne vais pas le suivre. Il me met mal à l'aise. C'est un mélange écœurant de folie et de vérité floue. Sera-t-il un ennemi de plus ? Dans l'arbre de vie, je l'ai vu avec Maol Morda s'unir contre moi. Pourtant, il n'est pas comme Maol Morda. Celui-là pourrait être sauvé. Hernan, sans s'en rendre compte, était en train de perpétuer la tradition de l'ancienne archidruide, Aileen. Tous les soirs, depuis le début de la crise, il discutait avec l'archiviste pendant de longues heures. Et comme Aileen l'avait fait avant lui, Hernan s'abandonnait souvent à un long monologue. Il avait besoin d'être écouté pour avancer dans sa réflexion, de verbaliser ses pensées devant l'archiviste pour les confronter à la réalité. Shehan le regardait patiemment et n'intervenait que rarement pour ne pas briser l'élan de l'archidruide.
« Cette fois-ci, je ne vois vraiment plus le futur, mon frère »,
se lamenta Hernan en regardant son reflet dans le miroir ovale de son cabinet.
La mort du haut roi et Hogan bouleverse tous mes plans. Toute ma pensée s'effondre. L'a-t-elle tué ? L'a-t-elle tué simplement pour s'opposer à nous? Est-ce possible qu'une femme nous déteste au point de tuer son mari pour nous atteindre, Cheyenne? Je ne comprends pas. Et que va-t-elle faire? Nous avons si mal géré les choses. Depuis la nuit des temps, le conseil s'arrange pour faire monter sur le trône de Gaelia des hommes qui lui sont acquis. Et Hogan nous était fidèle. Et nous n'avons pas vu venir cette catastrophe. Nous aurions dû nous opposer à ce mariage, Cheyenne. Comment Aileen a-t-il pu rater cela?
Peut-être l'a-t-il fait exprès, suggéra Cheyenne.
Exprès? Mais cela risque de causer la perte du conseil,
s'exclama l'archidruide.
Pourquoi? Parce que pour la première fois nous sommes seuls, sans la galaxie? Avons-nous vraiment besoin du roi ou de la reine? Sont-ils encore aujourd'hui les meilleurs alliés que l'on puisse désirer?
Hernan se retourna pour faire face à l'archiviste.
Vous pensez aux Tuatan, Cheyenne? Vous croyez qu'Aileen espérait que les Tuatan viendraient remplacer la galaxie dans l'équilibre des forces?
L'archiviste ne répondit pas, laissant son interlocuteur réfléchir un instant.
Oui, vous avez peut-être raison. Ils sont plus proches de la Moira que n'importe quel autre habitant de l'île. Et si c'est d'une armée dont nous avons besoin, celle des Tuatan est potentiellement meilleure que celle de la galaxie, en effet. Potentiellement, en tout cas, car aujourd'hui elle n'est pas assez nombreuse. Et comment leur donner une chance de s'étendre? En Terre Brune, ils sont la cible de la Cour et de Mérian de Mort, qui ne veut pas céder ses terres. Ils n'auront jamais là-bas la tranquillité suffisante pour se renforcer. Or, la guerre contre la Cour est véritablement une nécessité immédiate. Nous devons nous débarrasser des chrétiens. Si nous y parvenions, nous pourrions alors installer les Tuatan à Rhia. Mais la Cour possède maintenant l'épée de Nuadu.
Et Amin empêchera certainement l'armée de la galaxie de nous offrir le soutien que l'on attendait,
ajouta Cheyenne.
Bien sûr, l'équilibre n'est plus le même. Sans la galaxie, nos chances d'écraser la Cour sont réduites. Audran m'a fait parvenir toutefois de bonnes nouvelles des Tuatan. Ils ont nommé un nouveau chef, Malden, qui a accepté de mener le combat à nos côtés.
Mais j'ai aussi entendu dire que le fils de Sarkhan avait causé un schisme au sein des tribus.
Hernan hocha la tête.
C'est vrai. Mais il ne s'agit que d'une dizaine d'hommes. Il faudra y veiller toutefois. Il ne faut pas que ce mouvement prenne de l'ampleur. Nous devons l'étouffer avant qu'il ne devienne gênant. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre aussi les Tuatan.
L'archidruide soupira. Tout était devenu si compliqué.
Si nous voulons un jour récupérer la galaxie, il va falloir faire quelque chose au sujet de cette maudite Amin.
Nous pourrions prouver qu'elle a tué son mari et la juger, tout simplement.
Peut-être. Il me semble que le peuple de Galassie ne l'aime pas autant qu'il aimait le roi. Nous devrions pouvoir les convaincre qu'elle est coupable sans grande difficulté. Mais cela prendra du temps, et c'est bien le temps qui nous manque.
Assurons-nous au moins qu'Amine ne tentera rien contre nous pendant cette période, suggéra Cheyenne.
L'archidruide acquiesça. La guerre allait être plus ardue que prévu, car il y aurait plusieurs fronts. Aléa, la rébellion de Tagor, Amin, l'Arcour. Sans parler des Gorgounes, dont la rumeur disait qu'ils avançaient dangereusement vers Saïmina.
Nous devons frapper fort, tout de suite. Dites à tous nos frères que nous partons pour l'Arcour dès demain.
Si vite? Mais nous n'aurons jamais le temps de nous préparer d'ici là. C'est de la folie,
protesta l'archiviste en se levant.
Il n'y a aucune alternative. Faites ce que je vous demande.
Qui doit partir?
Tous les magistels, 6 grands druides et les 2/3 des druides.
Comment choisir les 6 membres du conseil qui devront partir?
Vous et moi devons rester. Fingin a disparu. Kiaran est sûrement incapable de se battre. Je voudrais qu'Aengus reste ici lui aussi.
Il faudra donc que ce soit Othelian, Kalan, Lorcan, Tiernan, Enon et bien sûr Odran, qui les retrouvera à mi-chemin et dirigera ensuite les opérations.
L'archiviste acquiesça silencieusement. Il se leva et sortit de la pièce, la mine grave. Le conseil ne pourrait plus revenir en arrière.